L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzala. L'émission de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes.
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse la reconnaître.
C'est ça.
Le meurtre est la base même de nos institutions sociales, par conséquent la nécessité la plus impérieuse de la vie civilisée. S'il n'y avait plus de meurtre, il n'y aurait plus de gouvernement d'aucune sorte. Par ce fait admirable que le crime en général, le meurtre en particulier, sont non seulement leur excuse, mais leur unique raison d'être. Nous vivrions alors en pleine anarchie, ce qui ne peut se concevoir. Aussi, loin de chercher à détruire le meurtre, est-il indispensable de le cultiver avec intelligence et persévérance ? Et je ne connais pas de meilleur moyen de culture que les lois. Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, 1899.
Monsieur le procureur, je regrette de n'avoir à vous offrir que ma tête.
Oh, silence, vous faites évacuer la chambre.
Landru, 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 vilain barbu, tu fais peur aux enfants, tu séduis les mamans. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. C'était, je crois, en 1923 que ton procès eut le succès que l'on sait. Landru, Landru, dommage qu'elle t'ait cru, toutes celles qui sous ton toit brûlèrent pour toi. Tu leur parlais si bien lorsque tu leur disais: venez ma douce amie, allons vite à Gambay. J'ai une petite villa, rien que monter des cendres. Et là, celle montait et descendait en cendres. Landru, Landru, de quel bois te chauffes-tu? Ton four fait de la fumée sous la verte ramée. Landru, Landru, un ramoneur est venu, il a dans ta cheminée trouvé un nid. Calciné. Pendant le verdict, pas un mot, pas un tic, énigmatique, tu restes hiératique. Landru, Landru, en jaquette, en bottine, il y a une veuve qui t'a eu la guillotine. Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit vieux grand-père vivant à Buenos Aires. La barbe rasée et la moustache frisée, plus rien de l'homme d'alors, c'est ça la mort. Disons tout de suite qu'en 1928, ce genre d'histoire était facile à croire. Landru, Landru, tout passe avec le temps, à présent tu ne fais plus peur aux enfants. Mais tu séduis pourtant bien des grands-mamans et Plougastel la Tarbe, elle rêve de ta barbe et de son poil dru, vieux Landru.
Je suis
suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quand nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Le meurtre se cultive suffisamment de lui-même. À proprement dire, il n'est pas le résultat de telle ou telle passion, ni la forme pathologique de la dégénérescence. C'est un instinct vital qui est en nous, qui est dans tous les êtres organisés et les domine, comme l'instinct génésique. Et c'est tellement vrai que la plupart du temps, ces deux instincts se combinent si bien l'un par l'autre, se confondent si totalement l'un dans l'autre, qu'ils ne font en quelque sorte qu'un seul et même instinct, et qu'on ne sait plus lequel des deux nous pousse à donner la vie, et lequel à la reprendre, lequel est le meurtre, et lequel est l'amour. Octave Mirbeau, Le Jardin des Supplices, 1899.
Bon, ben, je vous rappelle que je suis venu déposer plainte pour meurtre. Hein? Ça s'est passé dans le motel. Vous savez, le motel qui...
Ah oui, le motel de Parks. Hein? Ah, pas très fort là-bas. L'autoroute sur 7 km, c'est une erreur du sénateur Cole qui avait tout misé sur le maïs. Il n'a pas été réélu. Parks attend toujours la bretelle de raccordement qui avait été promise avant les élections. Oui.
Vous ne voulez pas prendre ma déposition?
À votre place, je me méfierais.
Vous êtes complètement cinglé ou quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer? Ah, vous croyez peut-être que je me suis...
Dans le dernier bouquin de Cienlock, il y a un type comme ça qui dit au sergent « Permettez-moi de ne pas me soupçonner avant de m'interroger. » C'est marrant, non?
Je peux parler, oui? La victime est une femme d'une trentaine d'années qui j'ai rencontrée...
Oui, mais la suite, je la connais d'une manière ou d'une autre. Mmh. Un cadavre, c'est tout con. On va quand même pas se disputer pour un bout de viande.
En vérité, messieurs, quand on apprend de pareilles choses, ce devient un devoir, semble-t-il, de mitiger un peu l'extrême sévérité avec laquelle la plupart des hommes parlent de l'assassinat. À les entendre, on supposerait qu'il n'y a que des avantages et inconvénients à être assassiné, et qu'il n'y en a pas du tout à ne l'être point. Mais les hommes avisés pensent autrement. Certes, dit Jeremy Taylor, c'est un moindre mal temporel de succomber à la rudesse d'un sabre que de succomber à la violence d'une fièvre. Et la hache, à laquelle il eût pu ajouter le maillet du charpentier de navire et la pince à levier, est une bien moindre affection qu'une strangurie. Voilà qui est vrai. L'évêque parle en sage et en connaisseur, ce que je ne doute pas qu'il ait été. Et un autre grand philosophe, Marc Aurèle, s'élevait également au-dessus des préjugés vulgaires à ce propos. Il déclare que c'est une des plus nobles fonctions de la raison que de savoir s'il est temps ou non de quitter ce monde. Thomas de Quincey, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts.
Ceci est un Magnum 44, le plus puissant revolver du monde. Il pourrait vous arracher la tête comme le vent vous enlève votre chapeau. Vous vous sentez à votre aise?
pour éteindre le feu au cul de Marilou. Un soir, n'en pouvant plus de jalousie, j'ai couru au couloir de l'hôtel décrocher de son clou l'extincteur d'incendie. Brandissant le cylindre d'acier, je frappe, paf ! Et Marilou se met à geindre. De son crâne fendu s'échappe un sang vermeil, identique au rouge sanglant de l'appareil. Elle a sur le lino un dernier soubresaut, une ultime secousse. J'appuie sur la manette, le corps de Marilou disparaît.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant
« Sa cloche, je sais pas où il est passé. »
« Hein ?» Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec.
Arthur réfléchit, non de là, ça a une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oui, oh, 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 oh.
Arthur, où t'as mis le corps?
C'est crié les inspecteurs.
Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui?
Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait.
Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, où il...
Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein?
Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, ça tourne les enfants, ça tourne.
Arthur,
es-tu là?
Oui, le corps.
Arthur, où t'as mis ton corps?
Ben, j'ai plus de corps, le corps.
Arthur, as-tu du cœur?
Bolotte, les gars. Rebolotte et 10 de nerf.
Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur.
La criminalistique s'est occupée jusqu'à présent de l'étude de tous les indices matériels qui peuvent accompagner le crime. C'est donc en quelque sorte, jusqu'à présent, l'interrogatoire scientifique des faits.
Je dirige le laboratoire de l'identité judiciaire. L'identité judiciaire étant un complexe constitué donc du laboratoire, mais aussi de services techniques, de ces services qui se rendent sur les lieux lors d'un crime pour y recueillir tout vestige, établir les plans et photographies. L'identité judiciaire remonte à 1880. Elle a été créée sous l'égide d'Alphonse Bertillon. Et puis elle a subi une évolution progressive qui l'a amenée vers 1920 à prendre un tournant décisif vers les techniques modernes alors de la science appliquée à la recherche du crime.
J'ai descendu 2-3 flics. Et toi, t'as tué du monde ?
Juste des flics.
Pas des vraies personnes ?
Juste des flics.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Et le regard des curieux comme unique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit:
je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient.
Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine. Dis un ancien para à quelques arrivistes: ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on est un être humain même si on est truand. Ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère?
Dis un père béret basque, un jeune besoin de tuer.
Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère?
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc assis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. J'suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. J'suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne
comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Y'a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds y'a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ses quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Salaud,
on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard.
Renault, laisse du neuf. Bon, Pete, il a un peu plus speed. Mais t'as vu le lyrics, il a pas pris une ride. j'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
C'est une question d'oreille. Un petit clic. Et voilà comment on force un coffre-fort. La leçon est donnée au musée du crime qui vient d'ouvrir à Washington. Pas vraiment une école pour criminels en herbe. La section châtiment, guillotine et chaises électriques sont là pour décourager les vocations.
Comment dirais-je, de l'espèce d'appel à un certain sadisme qui est en nous que font la plupart de vos auteurs. Ben, il est possible, il est certain même que parmi chez les plus civilisés d'entre nous, il subsiste un certain sadisme latent.
Les passants sur son chemin soulèvent leur galure, le chien lui lèche les mains, sa présence rassure, voyez cet enfant qui bugle, par lui secouru. Et comme il aide l'aveugle à traverser la rue dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin. Quand il est morose, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon. Quand il est inconsolable, quand il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouvent sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain quand il a le cafard. Allez hop dans le bassin sous les nénuphars et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais. Même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur. La 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 la. Car sous son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin. Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable dans le bois de Boulogne, le client dans une valise avec son chapeau prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable dans le bois de Meudon quand il est inconsolable. Il a le bourdon à la barbe des voisins qui le trouvent sympathique. Monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur. Hélas, trois fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur. Et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine.
petits amoureux ont vécu leur histoire derrière la vieille église de mon pays natal. Ils s'installaient le soir sur un banc dans le square, sans se douter qu'un jour ils seraient dans le journal. Par les beaux soirs d'été ou par les soirs de neige, lorsque ces tard sonnait, ils étaient là tous deux. Je venais très souvent surveiller leur manège, je comptais les baisers des petits amoureux. Je comptais les baisers des petits amoureux. Les petits amoureux étaient tendres et timides, ils parlaient doucement, moi je n'entendais rien. La fille avait pour lui de beaux regards humides, comme selon parfois les yeux des Mongoliens. Dans son petit bras, essayait de l'étreindre, mais il avait du mal à la serrer vraiment. Puis elle roulait dans l'herbe et se mettait à geindre. C'était toujours pour moi de merveilleux moments. C'était toujours pour moi de merveilleux moments. Elle était gigantesque et l'amour la faisait baver abondamment. D'un certain point de vue, c'était bien pittoresque, assez loin de l'idée qu'on se fait des amants. Qu'il soit nabo-manchot, qu'elle soit mongolienne, les voir gesticuler, c'était vraiment pas beau. Alors un soir j'ai dit, ça va, la coupe est pleine, et sans aucun remords je leur ai fait la peau. Et sans aucun remords je leur ai fait la peau. Je les ai d'abord laissés finir leur saloperie. À quoi bon déranger les gens qui vont mourir? Étaient sans méfiance, encore plein de folie. Quand je les ai chopés, ils m'ont même pas vu venir. Lui, je l'ai balancé par-dessus le mur d'enceinte. Il a dû s'écraser 50 mètres plus bas. La grosse est morte aussi, quasiment sans une plainte. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas. J'ai vu dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas. Et personne n'a compris, surtout pas la police. Ils ont cru que le nabo avait tué la souris. Et plongé dans le ravin, qui s'était fait justice. C'était parfait comme ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand je reviens dans le beau petit square, caché derrière l'église de mon pays natal, les petits amoureux me reviennent en mémoire. D'ailleurs, j'ai découpé la photo dans le journal. D'ailleurs, j'ai découpé la photo dans le journal.
Mais il est temps de dire quelques mots des principes de l'assassinat, dans le dessein d'orienter non pas votre pratique, mais votre jugement. Quant aux vieilles femmes et à la foule des lecteurs de journaux, ils se satisfont de n'importe quoi pourvu qu'il y ait assez de sang. Mais un esprit sensible exige quelque chose de plus. Parlons donc en premier lieu de la sorte de personne qui convient le mieux au dessein de l'assassin, en second lieu de l'endroit, et en troisième lieu de l'heure et d'autres menus détails. Quant à la personne, il est évident, je suppose, qu'elle doit être homme de bien, car si elle ne l'était pas, elle pourrait elle-même, d'aventure, méditer un assassinat au même moment. Le sujet choisi doit être en bonne santé, car il est absolument barbare d'assassiner une personne malade, qui, d'habitude, est tout à fait incapable de le supporter. Conformément à ce principe, on ne doit pas choisir un tailleur qui ait plus de 25 ans, car passé cet âge, il sera sûrement dyspeptique. Et dans cette bienveillante sollicitude pour le bien-être des malades, vous remarquerez l'effet ordinaire des beaux-arts qui aide à adoucir et de raffiner les sentiments. Le monde en général, messieurs, est assoiffé de sang. Tout ce que les gens désirent dans un meurtre, c'est une copieuse effusion de sang. Qu'il y ait de ce point de vue un étalage criard, et cela leur suffit. Mais le connaisseur éclairé a le goût plus raffiné. Et notre art, comme tous les autres arts libéraux quand ils sont l'objet d'une maîtrise parfaite, a pour effet d'humaniser le cœur. Un ami philosophe, bien connu pour sa philanthropie et son universelle bonté, opine que le sujet choisi doit aussi avoir une famille de jeunes enfants dépendant entièrement de son labeur, afin de rehausser le caractère pathétique de l'ouvrage. Et c'est là sans nul doute un judicieux avis. Toutefois, je n'insisterai pas trop vivement sur pareilles conditions. Un bon goût rigoureux le suggère incontestablement, mais néanmoins, si le sujet était d'autre part irréprochable du point de vue de la moralité et de la santé, je ne veillerai pas trop judicieusement sur une restriction qui pourrait avoir pour effet de rétrécir le champ d'action de l'artiste. Voilà pour la personne. Quant à l'heure, au lieu et aux outils, j'aurais bien des choses à dire, mais la place me manque. Le bon sens du praticien l'a porté habituellement vers la nuit et le secret. Pourtant, il n'a pas manqué de cas où l'on s'est départi de cette règle avec d'excellents effets. En ce qui concerne à la fois l'heure et le lieu, on trouve dans les annales d'Édimbourg, à l'année 1805, une belle exception, qui est familière à tous les enfants de cette ville, mais qui a été inexplicablement frustrée de sa juste part de renommée auprès des amateurs anglais. Le cas auquel je songe est celui d'un encaisseur de banque qui, alors qu'il portait un sac d'argent, fut assassiné en plein jour, comme il sortait de High Street, une des rues les plus populeuses d'Europe. Et le meurtrier n'est pas encore découvert à l'heure qu'il est. Thomas de Quincey, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts.
Des péchés, mon fils.
Eh ben, c'est-à-dire, mon père, que je voudrais pas qu'on y passe la nuit, alors. Je vais juste vous rencarder sur la dernière fournée. J'ai du sang sur les mains, et pas qu'un peu, voyez.
Je vois que tu parles par métaphore.
Quand j'ai besoin d'être au parfum d'un truc, je sors de chez moi, je me trouve un mec qui a les moyens de me rencarder, et je l'interroge. Bon, des fois, j'ai du mal à rester zen. Par exemple, vous voyez, ce soir, j'ai liquidé 3 mecs en ville. Je les ai d'abord torturés, c'est ma manière à moi de remonter la chaîne alimentaire. Les 2 premiers, c'était des petites frappes des coursiers de seconde zone. Puis il y a eu Connelly. Le rupin rapace, il vous a donné, mon père.
Alors, mon fils, nous sommes dans la maison de Dieu.
Un nom dépêche avant que je m'énerve.
Orc.
Ne grille pas ton joker, mon petit père, en me balançant des mythos de ce genre-là. Trop gros comme gibier.
Il y a une ferme entre North Cross et Lennox. Les preuves sont là. Tu n'as qu'à te baisser pour les ramasser. Quand tu seras en chemin, interroge-toi. Cela vaut-il vraiment la peine de mourir pour le cadavre d'une putain ?
Ça vaut la peine de mourir. Ça vaut la peine de tuer. Ça vaut la peine d'aller en enfer. Amen.
Je le connais depuis la communale, le gars qui est là, sur la photo. à la première page du journal. Mais je ne le reverrai pas de sitôt. Il a saigné deux vieilles mémères et buté deux flics, des costauds. Certainement sur un coup de colère, vu qu'il est pas méchant, Fredo. Il a liquidé sa frangine, une salope, une rien du tout, parce qu'il voulait plus qu'elle tapine. Elle a calanché sur le coup, ça, c'est une histoire de famille. Ça regarde pas le populo. Et puis, c'était jamais qu'une fille. À part ça, les gentils, Fredo. Il a pillé la Banque de France pour rendre service à des copains, pour améliorer leurs finances. Faut bien que tout le monde y gagne son pain. Il y a deux, trois employés de la banque qui ont pris de la mitraille, plein la peau. Bon Dieu, dans ces cas-là, on se planque. Mais c'est pas sa faute, Fredo. Il a vaguement fait du chantage. Ça, c'était plutôt pour se marier. Pour avoir l'air d'être à la page. Et les mômes qui la chouravaient, c'était des petits morveux de la haute qui bouffent du caviar au kilo, tout pour les uns, rien pour les autres, c'est pas juste, il disait Fredo. Le coup des deux voyous de Pigalle qui l'a flingué d'un cœur léger, moitié camé, moitié pédale. Il fallait bien les corriger. Sinon, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ça s'allonge au perdreau, total, qui c'est qui paye la case? C'est nos zigs, il disait Fredo. Il a fait le ramdam chez les Corses, à soir, qu'il avait picolé. Et comme il connaît pas sa force, les autres, ils ont pas rigolé. Raphaël a sorti son lingue. Bref, tout le monde s'est trouvé la peau. C'est vraiment l'histoire de dingue, vu que c'est tous des potes à Fredo. Coup de pique-feu dans le péritoine. Et Fredo s'est retrouvé comme ça, le cul sous le faubourg Saint-Antoine. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans ce quartier-là? Bien sûr, il s'est retrouvé tout de suite avec les poulets sur le dos. Maintenant, vous connaissez la suite, vous l'avez lu dans les journaux. Un garçon qui avait tout pour faire. Impeccable mentalité. Délicat, correct en affaires, bref, il n'avait que des qualités. Moi, ça me fait mal. Quand j'imagine en train de basculer sous le couteau de leur saloperie de guillotine, un mec aussi gentil que Fredo. À côté des requins de la finance et des crabes du gouvernement, de ces tarés qui règnent en France à grands coups de gueule d'enterrement, à côté de toutes ces riches natures qui nous égorgent à coups de grands mots, à côté de toute cette pourriture, il n'était pas méchant.
Senza, voilà les $500 qui te reviennent.
Oh, j'allais oublier. Il m'a donné $1,000. Et sais-tu pourquoi? Pour que je te tue. Mais l'ennui, c'est que moi, je finis toujours le travail pour lequel on me paie. Tu le sais, n'est-ce pas?
Non! Je ne sais pas! Non!
Ah, mes chers amis, je vais de ma vie vous faire un récit sans rien oublier. Car si j'ai 20 longes, je passe l'éponge et parfois je songe à ces 20 années. Comme j'avais pas le trac, je me suis fait mac dans une sale baraque. Je me suis marié avec une gonzesse qui avait les deux fesses pleines de promesses dont je fus chipé. Or un certain soir, sur le Rochechard, comme il faisait noir avec des amis, au coin du faubourg, près de la rue Beaubourg, lorsque tout à coup un pente me surgit. Un beau médaillon que portait ce con, une chaîne en jonc, cela me séduit. J'ouvre mon couteau et dans sa sale peau, l'enfonce aussitôt, le voilà oxy. Mais alors les flics, pas mal de public, puis quelques bourriques vinrent pour me sauter. Ils tombèrent sur moi, sans savoir pourquoi, chez le caron m'embarque, me v'là consigné.
Puis une voiture garnie de ferrures de la préfecture va pour me chercher. Alors le cipal me dit ça va mal, ton affaire est sale, tu vas être condamné. Je suis dans ma cellote, j'ai froid, je grelotte, je bois que de la flotte pour me fortifier. Puis une gamelle garnie d'eau de vaisselle, une boule de son pour me rassasier. Si je fais du pétard, on me fourre au mitard, à coucher ce soir dessus le carreau. Mais plaignez mon sort, car si jeune encore, à la peine de mort, je suis condamné.
Parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour, l'homicide.
C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Dit à ma mère en nous passant le plat de gratin. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, passe-moi donc le pain. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Et maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon à Bourg-les-Essonnes. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Et mon frère dit qu'il se souvenait quand lui et moi et le grand Nicolas, on avait mis une grenouille dans le dos de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Et il me dit, tu te rappelles, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier à Bourg-les-Essonnes. Et qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman m'a dit, enfin mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner, pour et à propos. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait à Bourg-les-Essonnes. Et lui et Marie-Jeanne jetaient quelque chose du pont de la Garonne. Toute une année est passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. Et moi de temps en temps je vais ramasser quelques fleurs du côté des essences. Et je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu
C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences, toujours impunis, hélas, du criminel Fantomas. Lady Beltham, sa maîtresse, le vit tuer son mari, car il les avait surpris au milieu de leurs caresses. Il coula le paquebot Lancaster au fond des flots. Sans personne, il assassine, mais Jules, aidé de Fandor, va lui faire subir son sort, enfin sur la guillotine. Mais un acteur très bien grimé, à sa place est exécuté. Un phare dans la tempête, croulent les pauvres bateaux, font naufrage au fond de l'eau. Mais surgissent quatre têtes, Lady Beltham aux yeux d'or, Fantomas, Juve et Fandor. Le monstre avait une fille, aussi jolie qu'une fleur. La douce Hélène au grand cœur ne tenait pas de sa famille, car elle sauva Fandor, qui était condamné à mort. En consigne d'une gare, un colis ensanglanté, un escroc est arrêté, qui est devenu le cadavre. Le cadavre est bien vivant, c'est Fantomas, mes enfants. Prisonnier dans une cloche, sonnant un enterrement, ainsi mourut son lieutenant, le sang de sa pauvre caboche, avec saphirs et diamants, pleuvait sur les assistants. Un beau jour, des fontaines, soudain chantèrent à Paris, le monde était surpris, ignorant que ces sirènes de la Concorde enfermaient un roi captif qui pleurait. Certains secrets d'importance allaient être dits au tsar. Fantomas, lui, le reçut calme, ayant pris sa ressemblance, il remplaçait l'empereur. Quand j'ai vu la
l'émission
de Pierre de Sang.
Tu te souviens, Sully, je t'ai promis que je te tuerais le dernier.
C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit.
Je t'ai menti.
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.